Dieu, avec nos oreilles, Seigneur Dieu, qu'on puisse écouter ta parole, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son œuvre et fécondé la terre. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants peuvent aller à l'éducation chrétienne. Donc, merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés pour les déménagements, parce qu'il y a aussi des gens, je pense, qui sont allés aider à Sylvain et Sylvie. Donc, on est reconnaissant pour ça. Et puis, n'oubliez pas de saluer Mirella, qui va retourner bientôt. Hein? Fait que je ne sais pas si tu es là mercredi. Oui, elle est là mercredi. Donc, on est encore jusqu'à mercredi. Profitez de votre communion avec notre chère sœur. J'aimerais ça saluer nos nouveaux mariés, Benjamin et Kayla. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? Ça, c'est bon courage. Non, non, c'est félicitations. Non, non, on est content. On a aussi Christopher, un ami à moi, qui est avec nous ce matin. Donc, on aimerait saluer. François, qui est venu à la Saint-Jean. On l'a connu là, hein, pour la plupart d'entre nous, qui a demandé à recevoir la vie éternelle et que nous avons prié ensemble vendredi à la Saint-Jean. Donc, je remercie le Seigneur pour toi, François, puis je te souhaite la bienvenue aussi. On a aussi Jérémy, qui est le fils de Daniel, qui est avec nous ce matin, qui vient à l'occasion. Et puis, lui aussi est venu à la Saint-Jean. On a prié pour lui. Il demande des prières pour que le Seigneur l'aide à arrêter de fumer. Donc, j'aimerais ça qu'on continue à prier pour lui. Dans vos prières, pensez à lui cette semaine, que le cœur lui lève quand il fume. Non, on ne veut pas que tu sois malade, mais on veut que tu... OK, vas-y. Et puis, on a Mélissa et Gaétan qui sont avec nous, qui ont aidé François à déménager hier aussi. On est vraiment contents que vous soyez aussi avec nous. Fait que Dieu vous bénisse abondamment. Y a-t-il quelqu'un d'autre? All right. OK. Fait que, on va commencer ça direct comme ça. On va lire le passage. Je vais prendre ma manette. OK, donc on lit le verset 3 jusqu'au verset 6 et on va se concentrer aujourd'hui sur le verset 5. Paul demande aux Colossiens de prier en même temps. En même temps que quoi? En même temps qu'ils le veillent eux-mêmes à faire continuellement des requêtes, de surveiller qu'ils sont toujours en train de faire des requêtes et des demandes au Seigneur pour toutes sortes de choses, qu'ils n'oublient pas l'apôtre Paul qui lui est en prison, que Dieu lui ouvre une porte pour la parole en sorte que Paul puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel il est dans les chaînes et qu'il puisse le faire connaître comme il doit en parler. Le verset qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Paul demandait des prières pour que des portes lui soient ouvertes afin qu'il puisse partager l'Évangile. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire dans nos vies, que Dieu nous ouvre des portes. Et puis la deuxième chose qu'il demandait, c'est que je puisse en parler comme je serais supposé d'en parler. Donc la manière même de parler du Seigneur, Paul lui demandait d'être assisté. Lui qui était un évangéliste hors pair avait besoin d'aide dans la prière pour que le Seigneur puisse lui ouvrir des opportunités de parler de lui, mais aussi qu'il puisse savoir comment parler de lui. Donc, dans le dernier message, on a vu, et on a mis surtout l'emphase dans le dernier message sur Colossiens, que Dieu nous ouvrait des portes. Et le titre du message, c'était « Prie pour des portes ». Et on a vu parfois que dans nos vies, il y a des portes qui sont fermées, parce que Satan ferme des portes. Satan, c'est l'adversaire des croyants et il s'oppose aux croyants. Donc, Satan ferme des portes. On a vu aussi que nous-mêmes, nous fermions des portes, parce que quand on en choisit une, bien, on dit non à d'autres choses aussi. En disant oui à certaines opportunités dans nos vies, on dit non à d'autres choses aussi. Puis on a vu aussi dans mon message que Dieu lui-même fermait des portes sur nos vies. Il fermait des portes puis il disait non. On a vu ça à l'aide d'un passage dans Acte 16 où l'Esprit de Jésus nous en empêcha, où l'Esprit du Seigneur nous empêcha de rentrer dans telle ou telle ville. Et on a parlé dans ce message-là de l'attitude qu'on devait avoir quand on sent que Dieu nous a ouvert une porte, que tout s'ouvrait puis qu'on dirait que tout se referme sur nous, d'avoir la flexibilité d'être capable de dire « j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire ». J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Et dans Acte 16, on voit que Paul il arrive en Macédoine. Et d'abord, ils arrivent dans certaines villes, Dieu ferme les portes, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas de rentrer à cet endroit-là. Puis là, ils ont un rêve, il y a un Macédonien qui dit « Viens, secours-nous ». Puis là, ben, il dit « Ah, ben, on va aller en Macédoine d'abord ». Fait qu'ils sont allés en Macédoine. Dans la première ville qu'ils vont en Macédoine, la ville de Philippe, marchent quelques jours dans la ville, s'installent, puis éventuellement vont à un lieu de prière. Puis là, ils vont commencer à parler aux gens et Dieu va ouvrir les portes du cœur d'une femme qui s'appelle Lydie. Puis un groupe de personnes là, qui vont accepter la vie éternelle, là, sur le bord de la rivière, et ils vont être baptisés. Une étude biblique va s'ouvrir. Hey, yes! Les portes sont ouvertes, les cœurs sont touchés. Et en même temps, il se passe qu'il y a une personne qui est possédée d'un esprit impur qui va commencer à nuire au travail du ministère jusqu'à les faire punir, les faire envoyer en prison. Et puis, boy, 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 on dirait que Dieu avait ouvert une porte, puis paf! Là, la porte se referme, et là, on ne comprend plus trop rien, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Mais finalement, les portes de cette prison-là vont s'ouvrir de façon littérale, elles vont vraiment s'ouvrir, il va y avoir un tremblement de terre. Puis, mais pas juste des portes qui vont s'ouvrir littéralement, il y a des portes de cœur qui vont s'ouvrir aussi. Le soldat qui était là, qui était sur le point de se suicider parce qu'il surveillait ces gens-là au prix de sa vie, eh bien, il va recevoir l'Évangile, il va amener les prisonniers, il va amener Paul et Silas à la maison. La maison va croire au milieu de la nuit, ils vont se faire baptiser. Et puis là, c'était rendu que dans cette ville-là, il y a deux groupes, deux familles qui ont reçu la vie éternelle puis qui ont ouvert leur cœur, leur porte, la porte de leur cœur et la porte de leur maison pour entendre l'Évangile puis avoir une étude biblique chez elles. Donc, ce qu'on a appris dans mon dernier message sur Colossiens, c'est que ce n'est pas parce que Dieu ouvre des portes que c'est facile. Ce n'est pas parce que Dieu ouvre des portes ou qu'il nous conduit que c'est nécessairement facile et on doit s'attendre à voir l'adversaire des croyants et la chair des hommes pour s'opposer à nous autres. Donc, ce n'est pas sans difficulté et sans obstacle. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est les portes que Dieu nous ouvre pour qu'on soit ses témoins. Paul, lui, qui est un évangéliste, demandait des prières pour voir des portes pour pouvoir parler de lui. Et j'aimerais ça que vous remarquiez dans le passage comment il passe de la demande de prière à l'exhortation. Il dit, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Et regardez comment il passe de la prière à l'exhortation. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » On voit dans ça, ici, qu'il passe à l'exhortation. Et il nous encourage, nous qui sommes les lecteurs, que notre conduite chrétienne soit un témoignage envers les gens de l'extérieur. Premièrement, il ne parle pas de parler. Il ne nous demande pas, lui qui est le grand évangéliste, il ne nous dit pas « partagez votre foi ». Il dit « soyez différents ». La première chose que les gens vont voir chez un chrétien, ce n'est pas ses paroles. C'est sa façon de vivre. Ce n'est pas son évangile, l'évangile de la grâce. C'est la manière que cette personne-là est différente des gens du monde. C'est notre conduite chrétienne envers les gens du dehors. C'est notre attitude envers le temps. Comment on utilise notre temps? Racheter le temps. Hein? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Notre attitude envers le temps, racheter le temps. L'impact de nos paroles et ce que devrait être notre façon de répondre aux gens de ce monde. Et donc, Paul dit, moi, je suis dans les chaînes, mais vous, vous êtes libres. Lui, il est en dedans, ses lecteurs sont dehors et ils sont appelés à laisser un témoignage dans le monde. Donc, le verset qu'on étudie aujourd'hui, c'est le verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Le mot pour se conduire, ça veut dire vraiment se comporter, aligner son comportement, faire un alignement avec la sagesse de Dieu. Donc, faites un alignement de votre comportement avec ce que Dieu dit des choses, avec la sagesse de Dieu. Okay? Et donc, la première ligne de front pour évangéliser, c'est notre manière de vivre qui est alignée sur un savoir pratique. La sagesse, c'est un savoir-faire. C'est une connaissance qui est traduite en une façon de faire, des choix à faire. On dirait en anglais un insight. Comment on dirait ça en français? Une insight, une illumination, mais c'est quelque chose qui, tu sais que c'est ça que tu devrais faire, puis tu le fais. Donc, les choix de nos vies qui touchent à nos finances, à la sexualité, la façon de dealer avec les autorités, les paroles, Jacques 3,13 dit, « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il le montre par un bon comportement? » Pas par des belles paroles, par un bon comportement, par des œuvres pleines de douceur et de sagesse. Quelqu'un est sage, qu'il le montre dans sa façon de se comporter, dans la façon d'être doux. Et personnellement, juste les paroles, moi, je veux dire, j'arrête pas pendant tout le long que je préparais ce message-là, il y a des situations, des choses que j'ai dites, soit dans un comité, soit un à un, je me dis, pourquoi j'ai dit ça? Et moi-même, je me disais, boy, je dis, pourquoi tout ça vient ça quand je prépare ce message-là? C'est parce que la parole de Dieu, je suis en train de l'étudier sur justement mon comportement, puis c'est comme si je laisse pendant que là, la parole est prêchée, nos comportements sont amenés en lumière. Dans Hébreux 4, Anne nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle vient juger des sentiments et des pensées du cœur. Puis les premiers à être jugés, c'était moi, en préparant ce message-là. Et je ne sous-estime pas que quand la parole de Dieu est prêchée, notre comportement est amené en lumière devant le Seigneur. Et puis Dieu nous dit, il y a une parole ici qui était inutile, il y a un comportement qui ne servait à rien. Ça ici, ça ne m'a pas représenté. Un peu comme avec Moïse qui a frappé le rocher puis qui n'a pas été un témoignage de la patience de Dieu. Dieu a accès à nos cœurs par sa parole pour venir juger les pensées et les sentiments du cœur. Et notre façon de vivre, Dieu est intéressé à cette façon de vivre-là. Et il faut laisser la place à la parole de Dieu pour venir nous évaluer. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, comme Ésaïe, on peut avoir l'expérience d'Ésaïe, c'est « Je vis l'Éternel dans sa gloire, mais j'ai dit, oh, malheur à moi ». Car mes yeux ont vu le roi des rois et ma bouche est souillée. Mon cœur est souillé. Hein? Parce qu'on s'approche d'un Dieu qui est saint et on est mis en lumière. La façon qu'on aime notre prochain, la constance qu'on a pour servir Dieu et le chercher et servir les autres, etc., etc. Notre façon de vivre est la première ligne de front pour être le sel de la terre. Je vous encourage, si à la fin de mon message, vous avez pu lire le livre des Proverbes, vous désirez lire le livre des Proverbes davantage, je vais avoir, d'une certaine manière, réussi mon message. Donc, le verset dit « Conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps. » Donc, lisez le livre des Proverbes. Je vous encourage, lisez le livre des Proverbes, lisez-le fréquemment. C'est une belle place pour commencer. Que votre vie soit alignée sur la sagesse de Dieu. Bien, c'est un livre qui est extraordinaire, le livre des Proverbes pour ça. Commençons avec un verset dans le Proverbe. Proverbe 11, verset 30. « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. » Selon un commentateur de l'Ancien Testament, Kalen Dillich, il dit que le fruit ici, ou le fruit est un arbre, il dit que le fruit, ce n'est pas un fruit pour lui-même. L'arbre de vie, c'est pas, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu vas en goûter les fruits, mais que c'est vraiment une activité extérieure d'une impulsion intérieure. Donc, le chrétien, le croyant, il y a une activité intérieure qui se passe en lui et ça produit une impulsion extérieure qui est le fruit. L'influence du chrétien ou du croyant, qui là, à l'extérieur, est un arbre de vie pour les autres, et les autres peuvent en manger ce fruit-là. Donc, c'est une influence pour les autres. Vos paroles, vos actions vont vivifier, rafraîchir, apporter une bonne influence sur les autres, et votre manière de vivre va gagner des âmes, ou s'empare des âmes. Dans l'original, ça parle d'être un conquérant. Hein? Donc, vous allez être quelqu'un qui, par votre sagesse, va avoir racheté l'opportunité d'être un témoignage pour Jésus-Christ dans ce moment stratégique du temps. Donc, comme le dit Jésus, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Notre première, je le dis encore, la première ligne de front pour être un témoignage, c'est notre manière de vivre envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Notre manière de vivre envers ceux qui nous regardent, les gens du dehors. C'est... Je me suis arrêté un petit bout de temps sur le mot « dehors » parce que Paul est en dedans. Mais ici, ce n'est pas ceux du dehors, ce n'est pas ceux qui sont dehors de la prison, c'est ceux qui sont dehors de l'Église, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Est-ce que c'est ceux qui sont dehors? Hey, dehors! Dehors! C'est-tu ceux qui ont été congédiés, qui ont été mis dehors? Non, c'est ceux qui ont quitté le Père, qui se sont éloignés des voies du Père et qui doivent encore revenir à la maison du Père. Pour faire suite avec le message... de la fête des Pères de la semaine passée. C'est des gens qui ne sont pas encore rentrés, qui n'ont pas encore accédé à la vie éternelle, qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle, qui ne sont pas encore entrés dans l'Église. Paul est en dedans, les chrétiens aussi. Les autres sont des gens du dehors. Paul est en dedans, il est en prison, mais Paul est en dedans parce qu'il est rentré dans la maison du Seigneur. Il a accepté la vie éternelle et il est rendu maintenant citoyen des saints. Il fait partie de la maison de Dieu. Les chrétiens aussi. Donc, pour Paul, être en dedans, c'est d'être rentré dans la maison du Seigneur, dans la famille des enfants de Dieu. Les gens du dehors, c'est ceux qui n'ont pas encore goûté à l'amour de Dieu. Et la sagesse, c'est de considérer que si moi, je suis à l'air climatisé, ben, je peux faire rentrer ceux qui souffrent de chaleur à l'extérieur. L'idée ici, c'est de ceux du dehors, c'est pas dehors parce que tu n'as pas cru. Non, dehors parce que tu n'es pas encore rentré. Et ma vie devrait donner le goût aux gens qui ne connaissent pas Christ d'entrer dans la famille des enfants de Dieu. Et c'est ça ici l'idée. Ma vie est un repère pour la maison du Père. Et ma vie devrait être une invitation à rentrer dans la maison du Seigneur. Revenons à notre verset qui nous dit de se comporter avec sagesse. Les proverbes nous disent que la sagesse est comme quelqu'un, comme une dame, une personne qui crie et qui envoie un message. Comporter avec sagesse, se comporter avec sagesse. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Donc ici, la sagesse a écrit. Puis la première affaire a dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand a fait des réprimandes? Jusqu'à quand le stupide va aimer sa stupidité, le moqueur va aimer sa moquerie, que l'insensé va toujours haïr la science. Donc, elle va corriger nos fausses manières de penser. La sagesse, si je veux aligner ma vie avec la sagesse de Dieu, il faut que j'aligne ma vie avec les réprimandes du Seigneur. Parce que ma roue est croche. Puis, le but de Dieu... C'est vrai que le péché a tout endommagé, mais le but de Dieu, c'est quand même de nous rendre ressembler à Jésus-Christ. Romains 8, 29. Dieu nous a prédestinés pour qu'on devienne semblable à l'image de son Fils. On était créés image de Dieu, et en Jésus-Christ, on est créé de nouveau pour être image du Fils. Hein? Il nous a créés selon son image, l'image du Fils. Et donc, tout apprentissage est un apprentissage qu'on se cachait déjà. Contre ce que je sais déjà. Donc, avant de construire, Dieu doit détruire. Okay? Et donc, toute œuvre de construction du Seigneur, c'est une œuvre de destruction, premièrement. Il doit venir détruire des faux raisonnements, des fausses bases sur lesquelles je m'appuyais pour pouvoir ensuite construire. Il vient arracher, abattre et détruire pour pouvoir planter et construire. Et donc, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, qu'elle dit. Hein? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. 2 Timothée 3,16 dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de venir corriger, instruire, pour que tu puisses être capable de faire des bonnes œuvres. Et donc, elle va nous faire sortir de la stupidité. Jusqu'à quand, stupide, puis là, je ne suis pas en train de traiter des noms ici. Là. Jusqu'à quand, stupide, tu sais, prends pas cette parole-là seulement. Hein. Aimerez-vous la stupidité? La rousse, un stupide, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence, de jugement, de réflexion. Il est stupide et ne comprend rien. Qui agit sottement dans une circonstance donnée. Qui dit ou fait quelque chose d'inadéquat. Et adéquat. Il y en a qui disent « quoi? » J'ai été stupide d'accepter ce poste qui dénote de l'inintelligence, de la sottise, l'absence de réflexion. Avoir finalement agi sans réfléchir. On est appelé à quitter la stupidité et n'a plus agir ou parler sans avoir réfléchi d'abord. Elle peut venir nous dire, par exemple, la sagesse, « Ton inquiétude ne laisse pas de place pour Dieu. Réfléchis un peu. Est-ce que Dieu t'a déjà abandonné? Par exemple, ces derniers temps, je me disais, en janvier, je me disais, il va manquer d'argent. Tu sais, on arrivait à un budget serré. Puis déjà, je me prenais sur moi de dire, « Regarde, je vais faire quelque chose. » Et puis là, une grande masse de gens qui ont quitté, je disais, « C'est sûr, on ne fera pas le budget. C'est certain, on ne fera pas le budget. » Et je brassais le 7-Up. Qu'est-ce qu'on fait quand ça brasse le 7-Up? Ça renverse. On couvre nos frais depuis 2 ou 3 mois et c'est jamais arrivé d'avoir les offrandes qu'on a eues ces derniers temps, mettons depuis 2006. Okay? C'est quand même un miracle sur lequel on est. Puis ça, c'est grâce à des gens qui croient à qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est comme si Dieu me disait, regarde, relax. Là. Puis là, Gilles est venu en plus avec son partage ses offrandes. Puis là, il a parlé d'un agapé, puis il disait, tu sais, il dit, moi, je amène mon fromage en grain, mais il dit, l'autre amène la liqueur, puis l'autre amène les chips, l'autre amène les sandwichs. Puis là, il me faisait réaliser que c'est une affaire de corps, puis il n'y a pas un membre de l'Église qui doit tout essayer. Puis dans le fond, c'est un manque de réflexion, c'est de la sottise que de se précipiter dans toutes sortes de raisonnements. Puis là, ton partage, Gilles, m'a fait beaucoup de bien, je voulais te le dire encore, parce que je me suis dit, hey, c'est vrai, on est un corps, puis je vais donner mon meilleur. Je vais continuer à donner mon meilleur pour cette Église-là, puis ce que je vois, c'est qu'il y a plein de monde qui donne leur meilleur. Puis c'est beau qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, ça me rassure. Mais quand on pense sans les promesses de Dieu, sans la sagesse de Dieu, bien, on peut se sentir comme Asaph dans Psaume 73 au verset 21 qui dit « Quand je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. » Donc, une idée de ne pas réfléchir avec Dieu, de se précipiter comme une poule pas de tête, puis d'essayer de trouver toutes sortes de solutions. Et la sagesse a dit « Arrête, réfléchis. » Est-ce que Dieu t'a déjà abandonné? Non? Bien, réfléchis, aligne ton comportement avec la sagesse de Dieu. Et là, tu quittes la sottise. Tu quittes de courir comme une poule pas de tête, puis tu commences à te placer sous le... Tu alignes ton comportement sur la sagesse de Dieu qui est pleine de bon sens. Jusqu'à quand, la sagesse a dit, les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Jusqu'à quand, les moqueurs... se plairont-ils à la moquerie? Les moqueurs sont appelés à ne plus se plaire dans la moquerie. Un moqueur, c'est celui qui rit de la vérité et ne veut pas se remettre en question. Quand c'est une promesse, il se moque de ça, il ne veut pas croire à ça, mais quand ça touche à lui, quand ça le met en lumière, il rit de la vérité parce qu'il ne veut pas se remettre en question. Gardons quelques versets des Proverbes. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Tu vois? Donc, il ne peut pas devenir sage. Le fils sage, il est sage parce qu'il a écouté l'instruction, mais le moqueur est resté moqueur. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas la réprimande. Donc, dès qu'il devient le centre et que ça le vise lui, il se moque de quelqu'un d'autre. Il se moque du messager, il trouve un responsable parce qu'il ne veut pas être le centre, il ne veut pas être revisé dans ses croyances, dans ses actions. Proverbe 15, verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Hein? C'est quelqu'un qui rit de la vérité parce qu'il ne veut pas se faire mettre en question. Il accuse la vérité ou le principe pour ne pas se faire remettre en question. Celui qui reprend un moqueur s'attire du dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. Mais reprends le sage et il t'aimera. Pourquoi? Parce que le sage, lui, va augmenter sa possibilité d'aligner sa vie avec la vérité. Lui, il vient de gagner une autre opportunité de dire, « Boy, j'avais un angle mort, il y a quelqu'un ici qui m'a aidé, il y a quelque chose que je ne voyais pas, ou je le voyais, mais je ne le faisais pas. » On m'a repris et puis je suis devenu encore plus sage. Le sage, lui, il va t'aimer encore plus. Mais le moqueur, lui, il va, à cause que tu lui as fait un reproche, il va t'haïr encore plus. Tu sais. Donc, le moqueur, dans les Proverbes, c'est celui qui ridiculise la personne qui le reprend et dit, « Hey, je suis-tu en train d'être le centre de la discussion ici? Oh, je dois sortir de cette situation au plus vite et trouver un bouc émissaire pour comment je me sens, parce que je ne me sens pas bien. » Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Le passage aujourd'hui nous exhorte à se comporter avec sagesse. Proverbe 14:8, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Le savoir-faire, on pourrait dire le savoir-faire de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Lui, il pense avant d'agir, puis il pense la prudence, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver après, par la suite. C'est de marcher d'un pas réfléchi, c'est de penser aux conséquences qui vont arriver. C'est d'agir en fonction de ce qui va arriver après. Et Dieu veut que ses enfants agissent avec sagesse, qu'ils se comportent avec sagesse. Dans un passage qui fait l'éloge de la parole, dans le psaume 119 au verset 57, le psalmiste dit, « Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies. Je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. » Ici, lui, il prend le temps de réfléchir. Et la réflexion qu'il fait, c'est obéir. Si je comprends quelque chose, Seigneur, aujourd'hui, je viens à l'église, là, si je comprends quelque chose, je vais obéir. Si je me fais réprimander par ta parole, je vais obéir. Si je lis la Bible, je la médite chez moi, et que ta parole me parle, je vais l'obéir parce que mon lot, c'est d'obéir à tes paroles. Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Quelqu'un a déjà dit, l'obéissance reportée à plus tard, c'est une désobéissance. Donc, je dois vouloir obéir. Si je veux être une personne qui est sage, il faut que je prenne ce que j'entends, il faut que j'apprenne ce que je comprends et que je fasse quelque chose avec ce qui m'est enseigné, avec ce que je comprends du Seigneur. La sagesse, je vais en avoir plus si j'obéis à la parole de Dieu. Saint Augustin reflète bien comment on pense souvent. Il dit, rends-moi peu, mais pas tout de suite. On reporte. Non, l'homme sage, le garçon sage, la fille sage, c'est quelqu'un qui se laisse convaincre par la parole et qui l'obéit. Des fois, il est corrigé. Il cherche une instruction. OK, Seigneur, tu viens de me dire que j'étais off. La façon que j'ai parlé, c'était off. La façon que je me suis comporté, ça ne marchait pas. Bien, c'est quoi l'instruction? J'attends tes instructions. C'est quoi la nouvelle façon? C'est quoi la meilleure façon? C'est pour ça que je relis le verset de 2 Timothée 3,16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » La formation de la personne de Jésus-Christ en moi ne va pas sans me confronter et me convaincre. On revient à notre verset. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Quand ceux qui ne sont pas rentrés réalisent qu'ils ont commencé à s'éloigner, ils ont fait des choix pas sages, des fois des choix de sottise, et puis que leur sentier, la corde s'est mêlée, là, que leur vie qui était supposée de leur amener joie, liberté, épanouissement, ça s'est mêlé de choix qui ne sont pas sages. Ils vont se tourner et ils vont regarder vos bonnes œuvres. Ils vont regarder la vie que vous avez vécue avec Christ dans la sagesse de Dieu et votre vie va être une invitation à venir à l'intérieur. Donc, la première chose qu'ils vont remarquer, je disais tantôt, ce sont vos actions. Ça peut être de rapporter un paquet que vous avez payé en trop. Vous avez un paquet de trop pour le prix. Vous avez acheté une chose, mais vous en avez peut-être parti avec 10, mais la caissière en a passé juste 10 dans sa caisse. Moi, une fois, j'étais là, « Yes, Dieu m'a béni, tu sais, j'en ai 9 de plus. Tu » sais. Fait que là, je parle avec des frères ici. Puis ça, toi, qu'est-ce que tu ferais tu sais, si tu en payais un, mais qu'on t'en donnait 10? Tu sais. Ben, je retournerais leur porter. Tu sais. Moi, je pensais que Dieu m'avait béni. Tu sais. Fait que, elle retourne à la caisse, elle dit, « Madame, c'est pas à moi, dans le fond, j'en ai payé juste un. »« Ah, monsieur, vous êtes honnête, tu sais. » J'étais là, si tu savais, je l'ai regardé. l'a regardé, mais j'ai été convaincu par la bonté de mon frère qui lui l'aurait ramené, tu sais. Mais non, j'ai dit, écoutez, madame, c'est parce que je suis un chrétien. Fait que mon frère m'a aidé à avoir un bon témoignage. C'est parce que je suis chrétien, je crois en Dieu, puis c'est pas à moi, donc je vous le ramène. Ça peut être de répondre doucement à un employeur qui vous a irrité, de ne pas répondre de la même manière. Et puis que Dieu visite le cœur de cet homme-là, puis que lui, le Saint-Esprit, vienne le convaincre de son péché, qui est toujours en train d'agresser les employés par votre bonne conduite. Donc, Dieu peut le faire parce qu'il a mis l'Esprit en vous, il peut vous convaincre de parler avec douceur à cette personne-là. Quelqu'un est-il sage? Quelqu'un est-il intelligent? Qu'il le montre par une douceur produite par la sagesse. Plein de comportements qu'on pourrait faire qui nous feraient gagner des gens à Jésus-Christ. Peut-être pas comme quand on annonce l'Évangile, mais après qu'on va parler de l'Évangile, on va avoir de la crédibilité parce qu'on n'est pas comme le monde. Ensuite, il dit « racheter le temps ». Racheter le temps. Le temps, c'est « kairos » dans le grec et c'est un point stratégique dans le temps. Et on a un verset dans Éphésiens au chapitre 5 qui dit à peu près la même affaire. Il dit « racheter le temps car les jours sont mauvais ». C'est pourquoi « soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais, parce qu'on est dans la fin des temps. Il l'était, la fin des temps a commencé à la croix. Donc, on est encore plus dans la fin des temps. On est dans la fin des temps et il y a présentement des opportunités qui doivent être rachetées pour en sauver un maximum de l'éternité sans Dieu, du lac de feu. Et donc, le terme pour racheter le temps, « tailleur », un commentateur du grec dit, c'est acheter une opportunité pour soi-même, c'est faire un usage utile et sacré de chaque moment pour faire le bien, pour que le zèle et le bien faire soient, et ils le sont, la monnaie d'échange par laquelle nous nous approprions le temps. Donc, utiliser le temps, donc c'est de prendre les moments stratégiques du temps pour que le bien qu'on fait va être utilisé pour maximiser ce temps-là en notre faveur. C'est intéressant. Ramsey, un autre commentateur du grec, dit « c'est remplir votre magasinage complet dans cette occasion. C'est d'aller, quand tu rentres au magasin, aller chercher ce que tu t'étais donné dans ce temps-là. T'as fait, ça a été profitable. Comportez-vous avec la sagesse de Dieu pour racheter le temps, pour utiliser ces moments qui sont donnés dans le temps, parce que c'est le seul temps, présentement, dans l'éternité, qu'on peut être pour Dieu dans un monde qui est contre Dieu. » C'est pour ça que jeune homme, jeune fille, c'est le temps d'être pur. C'est le temps de se consacrer. Monsieur, madame, c'est le temps de vivre de toute parole de Dieu puis de devenir sage. Nos cheveux blancs sont un signe d'un vieil âge, mais pas toujours de sagesse. Et donc, on a besoin de remplir notre magasinage complet dans cette occasion-là, de bien faire pour attirer les gens du dehors à nous poser des questions concernant notre foi et notre façon de vivre. Le chrétien devrait vivre d'une telle manière que les gens lui demandent quelle est la raison de pourquoi ils vivent et pourquoi ils croient. Le croyant doit marcher avec sagesse, racheter chaque moment pour que le temps soit utilisé favorablement. Moïse, il était âgé lorsqu'il écrit le psaume 90. Il avait vu une vie de mauvais choix, un peuple rebelle, un peuple qui reportait, qui n'utilisait pas le temps pour marcher avec Dieu, il utilisait le temps pour vivre pour eux-mêmes, mais pas pour vivre pour celui qui les avait sortis d'Égypte. Il était rendu vieux. Il avait appris beaucoup de sagesse parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Et il avait appris cette sagesse-là aussi beaucoup par la souffrance. Et il a fait cette prière à Dieu dans le psaume 90. « Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier et elles passent comme le quart de la nuit. » Tu les emportes, semblable à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Ce verset-là, il parle que la vie, elle passe vite. Que Dieu est en colère. Et les gens ne prennent pas garde à ça. Ils ne prennent pas garde au fait que qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? On parle d'un Dieu patient, qui est la patience n'est pas que Dieu ne fait rien, c'est que Dieu attend pour faire quelque chose. On parle d'un jugement où tout homme, toute femme va comparaître devant le juge de l'univers pour qu'est-ce qu'il a fait dans son corps. Et on parle de... Et qui prend garde? Qui prend garde qu'il va avoir un jugement, puis qu'on ne peut pas vivre n'importe comment, il va y avoir un jugement? Qui prend garde à ça? Et lui est rendu âgé, puis il dit, pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Et les temps sont mauvais, parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il y a un jugement qui s'en vient. Et la colère de Dieu, la patience, ce n'est pas que Dieu ne fait rien, c'est que Dieu attend pour faire quelque chose. Il y a un jour où ce que... Là, présentement, il use de patience parce qu'il est aimant aussi. Il est en colère contre le péché, mais il est aimant pour tous les êtres humains de la terre. Et cet amour-là fait qu'on est dans l'an 2016 de la grâce. Il use de grâce envers les hommes, il use de patience, et il retarde le jugement pour qu'un maximum soit sauvé. Mais qui prend garde à ça? Et parmi les chrétiens ici, faites le voyage vers l'intérieur. Qui prend garde à ça? Qu'on est ici sur la terre pour se préparer à faire face à son Dieu et préparer d'autres personnes à passer, à être sauvées de ce jugement-là. Parce que Dieu, dans son amour, il nous offre un autre jugement. Il offre à tous les hommes un jugement, le jugement de Christ à leur place. La colère de Dieu déversée sur le Fils pour tous les hommes, afin que les hommes ne soient pas jugés. Qui prend garde à cette colère-là? La colère de Dieu a été manifestée contre le péché. L'amour de Dieu pour le pécheur a été manifesté à la croix. Mais qui prend garde à ça? Est-ce que vous vivez vos vies en rachetant le temps, en sachant que votre manière de vivre va attirer des gens à l'Évangile, puis qu'il y en a un plus grand nombre qui vont être sauvés? Sinon, si ce n'est pas ça, on est dans le champ. On vise beaucoup plus bas que ce que Dieu a préparé pour nos vies. Dieu nous a rachetés. Ce n'est pas de partir à courir puis de commencer à évangéliser tout le monde. Dieu dit, commence par vie de l'Évangile. Sois sérieux avec l'Écriture. Aligne ta vie, ton comportement sur l'Évangile. Vie de la sagesse. Vie comme l'Évangile. C'est après qu'il va dire dans le verset que votre parole soit assaisonnée de grâce, que vous sachiez toujours comment il faut répondre à chacun. Ce n'est pas de courir nécessairement puis de commencer à parler, c'est de commencer à être le message d'abord. Parce que c'est ça qui va donner de la crédibilité. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Puis il y a le verset, je termine avec ceci. Verset qui résume bien, je trouve, la pensée de l'apôtre Paul. C'est Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Hein? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je pense que ce verset-là il résume bien. Soyez pas juste des gens qui écoutent ou qui lisent, mais des gens qui se mettent à l'activité, qui se mettent à l'activité d'aligner leur façon de vivre en fonction de la sagesse de Dieu. Et on va être ainsi des gens qui sont heureux dans notre activité. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, ce n'était pas le moi qui était au centre du message aujourd'hui. Ce n'était pas comment vous pouvez être plus riche, comment vous pouvez être plus heureux à la limite. Ce n'était pas moi qui était le centre du message, c'était les perdus, ceux qui ne sont pas encore dans ta maison, Seigneur. C'était ça le centre du message, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous appelles à être différent du monde pour gagner le monde. Ah, c'est sûr qu'on aimerait savoir des messages sur comment être plus patient, comment, tu sais, des choses qui nous rapporteraient quelque chose. Même le fruit est pour les autres dans ce passage qu'on a étudié aujourd'hui. On devient un arbre de vie pour les autres. Des fois, on pourrait dire, « Ouais, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? » Bien, marcher avec la sagesse de Dieu, c'est qu'on va réussir nos vies. Puis on va être heureux dans toutes nos activités. Seigneur, moi-même, quand je préparais ce message-là, j'avais plein de mauvais souvenirs des choses que j'avais dites, des choses que j'avais faites. Puis ça m'a amené même à arrêter d'écrire mon message, puis de confesser, puis de dire, « Hey Seigneur, j'aurais pas dû dire ça. Je vois que c'était pas sage ici de dire ça ou de faire ça. » Et je reconnaissais, Seigneur Dieu, que je peux pas marcher davantage avec toi si tu peux pas avoir la possibilité de reprendre, corriger et instruire. Donne-nous toujours un cœur pour te craindre, un cœur pour te respecter, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui se perdent, Seigneur. Puis si ma façon de vivre peut en perdre des gens. Et Seigneur, je te prie que chacune des vies qui est représentée ici, on puisse racheter le temps en vivant de la parole de Dieu. En laissant la parole de Dieu venir pénétrer les sentiments et les pensées du cœur, qu'elle vienne mettre en lumière où ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on a besoin d'abandonner au pied de la croix. Aller chercher le pardon pour ces actions-là, puis aller chercher conseils et instructions pour faire mieux, faire différemment, afin qu'on soit le sel de la terre. Seigneur, si le sel ne sert plus à rien, à quoi qu'il sert, Seigneur? Tu as dit qu'il servait juste à être mis au pied. Je te prie pour des chrétiens savoureux. Chaque personne qui est ici ce matin, je te prie qu'ils soient savoureux, Seigneur, qu'ils donnent soif pour l'Évangile. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu le don de la vie éternelle, eh bien, aujourd'hui, tu as entendu parler de la colère de Dieu, mais tu as entendu parler de l'amour de Dieu aussi. La colère de Dieu contre le péché et l'amour de Dieu pour le pécheur. Dieu t'aime. Il est devenu un homme sur la croix, il a porté ton péché. Il a été puni à ta place, afin que tu ne sois pas puni au jour de ta mort. La seule chose qu'il te demande de faire pour recevoir la vie éternelle, c'est de croire qu'il a été puni à ta place pour que tu puisses aller au ciel avec Dieu, qu'il a été enterré, puis que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Si tu veux recevoir ce que Jésus a fait, prie avec nous. Et je vais demander à toute l'Église de répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu as vécu une vie parfaite pour moi, que tu es mort sur la croix pour être puni à ma place. Je le crois et je l'accepte. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me préparer une place. Et je t'accepte comme mon sauveur. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, la Bible dit que tes péchés sont pardonnés si tu le crois, ce que tu as dit, et que la colère qui devait venir sur toi est venue sur lui. Ce matin, si tu as fait cette prière, tu as racheté le temps. Tu as utilisé le temps d'une heure qu'on était ensemble. Tu as utilisé ce temps-là et tu l'as racheté parce que le jugement s'en vient et tu as dit, « Oups, là, je veux racheter. » J'ai utilisé ce temps-là pour qu'il me soit favorable pour moi. Et tu as reçu le don de la vie éternelle. Et on veut t'applaudir et te féliciter pour ça. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. On va finir avec un chant. Et